Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouvel épisode mensuel des critiques des Yugi. Yugi, il y en a juste un, c'est moi, ouais, Yugi, votre animateur, votre critique. Dernier épisode mensuel de la saison 2.
Déjà deux saisons.
On va rester ensuite trois capsules express ainsi que la nouvelle saison 3 qui commence le 1er septembre. On vous en parle plus tard dans l'émission. On va commencer par mentionner que la critique de Yugi est présentement en vacances.
On prend des vacances
et nous sommes présentement on the north of the coast.
On dit North Shore.
Ah, il est à la côte nord.
Oui, exactement.
Où exactement il est?
On dirait des îlets caribous.
Îlets caribous, voilà, entre
c'est 10 km après Bétrinité.
Qui est peu de temps après Bécomo, qui est un peu de temps avant.
À une heure de Bécomo et à une heure de Port-Cartier.
Et voilà. Et voilà. Puis ensuite, c'est cette île.
Après Port-Cartier.
Voilà. Donc, c'est là qu'on est. Nous sommes présentement à l'extérieur dans un gazebo. Donc, c'est possible que vous entendiez des bruits bizarres. Principalement des bruits de voitures et de camions qui passent parce qu'on a la route qui est pas très, très loin derrière nous. Donc, si ça fait ça, c'est qu'il y a une voiture qui vient de passer. Voilà. Donc, ne vous en faites pas. On nous entend quand même très bien. Et vous allez vous habituer comme on s'habitue en vacances.
Ouais, c'est une question d'ambiance. Puis là, merci à la voiture qui attendait notre cue pour passer.
Exactement. Exactement, on l'a signalé. Il y avait quelqu'un sur le bord de la route qui disait « Qu'est-ce que c'est beau, viens-t'en! »
Viens-t'en. Voilà. On va faire le micro. Non, mais tu sais, c'est la dédication.
Et voilà.
On est dévoués.
Parlant de dédication, allez donc faire un tour sur notre page Facebook.
Soyez dédiés.
Voilà. La critique de Yugi. Faites une petite recherche sur Facebook. Faut-tu dire Meta?
Non, Facebook by Meta.
Facebook by Meta.
Meta étant la grosse entité qui retrouve.
Meta qu'on s'en fout un peu.
Faut aller sur Facebook.
Faut aller sur Facebook. La critique de Yugi. Faites une recherche, trouvez-nous, abonnez-vous et surtout, partagez-nous. Partagez la bonne nouvelle, partagez nos posts. Vous êtes notre publicité principale.
Trois actions, aimer, commenter, partager. Faut faire les trois. Exactement. Parce que sinon. Zuckerberg et son algorithme fait que ben, il y a juste vous autres qui nous voyez et vous ne pouvez pas, tel un messie, répandre la bonne nouvelle.
Exactement.
Répandez la bonne nouvelle.
Donc c'est super important. Merci de le faire si c'est déjà fait. Merci de continuer de le faire. Merci de commencer à le faire. Page Facebook Critique de Yugi. Et sinon, ben, vous êtes présentement en train de nous écouter sur une plateforme numérique, genre...
Spotify.
Genre...
Apple Music.
Genre...
Google.
Genre...
Chez ta mère.
Peut-être, mais je pense pas que ce soit une plateforme numérique. Ça. Ils peuvent nous écouter chez ma mère.
Ouais, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui va starter ça.
Ah, peut-être.
Chez ma mère.
La plateforme chez ma mère. C'est l'idée est lancée.
Voilà.
Balado Québec.
Bien sûr.
Ou toute autre plateforme sur laquelle vous nous avez trouvé. Il y a un petit bouton qui s'appelle abonner ou un petit bouton qui s'appelle télécharger. Ou sinon, c'est des étoiles. Donnez-nous des étoiles. Faites un des trois ou les trois ou deux des trois. Peu importe. Faites quelque chose. Ça nous aide beaucoup, encore une fois, à aller chercher plus d'auditeurs, à apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche lorsque le monde ne sait pas quoi écouter et à aller chercher plus de fans.
Ben oui, c'est ça.
C'est super important. Merci de le faire, merci de l'avoir fait. Et c'est ça. On passe donc à notre épisode mensuel spécial vacances, qui n'est pas vraiment un spécial vacances, on est juste en vacances.
Mais c'est juste qu'on parle de ce qu'on a fait. On parle de ce qu'on a fait.
Donc, on a écouté deux choses. On a terminé d'écouter une troisième chose et on a participé à un événement. Donc, on va commencer justement par l'événement, par le Comic-Con de Montréal.
Oui, yeah.
On va vous parler de nos impressions sur cet événement. Ensuite, on vous parle du film The Outlaws. Donc, un petit jeu de mots avec The In-Laws, mais là, c'est The Outlaws. On vous explique plus tard c'est quoi, un film sur Netflix. On a également l'excellent film X sur Netflix.
Non, Prime Video.
Il était sur Prime Video?
Oui.
Ah, je pensais qu'il était sur Netflix.
Non,
Prime Video, je m'en tiens corrigé. Et ensuite, on vous parle de nos impressions de la série Secret Invasion, série de Marvel
sur Disney+. Quand même un bon éventail de plateformes de
visionnement. Quand même, hein? Quand même. Netflix, Prime et Disney. Donc voilà, on termine ça bien. En plus d'un événement.
On est partout.
Parlons de l'événement justement Comic-Con de Montréal qui s'est déroulé du 14 au 16 juillet à
Montréal.
À Montréal.
Ben voyons donc.
Je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer c'est quoi un Comic-Con. Je pense qu'avec les années, tout le monde, du moins le monde qui nous écoute, savent c'est quoi un Comic-Con.
Oui, absolument.
Un événement.
S'ils ne savent pas, mon Dieu, sortez.
C'est ça. Donc, un événement rassemblant tout plein d'artistes invités de la télé, du cinéma ou des comics.
Ouais.
Ainsi que plein de marchands et d'artisans qui essayent de vendre leur stock du mieux qu'ils le peuvent. Et une façon pour les amateurs de cosplay de montrer leur talent ou leur pas de talent.
Oui, mais à quelque part, c'est toujours une question de. Un pays libre.
C'est un pays libre parce qu'on s'entend qu'il y a quelqu'un qui met une casquette de Mario puis c'est tout. Oui, t'as participé.
Tu gagneras pas de prix.
Tu gagneras pas de prix.
Mais il a voulu se mettre dans la viande.
Oh oui,
moi, j'aimerais bien la personne qui se déguise en Winnie. Donc, il se peint en jaune de la tête.
Je pensais que t'allais dire juste un t-shirt rouge.
Ben oui, tout nu avec un t-shirt rouge.
Donc, mec qui est de la tête aux pieds en jaune et un t-shirt rouge. C'est ça le costume à Winnie dans le fond.
Qui se met un jackstrap.
Wow, c'est un détail. Winnie, il n'y a pas de jackstrap.
Je suis pas sûr que ça va passer, ça. Non. Les règles du cosplay de Comic-Con, je suis pas sûr que ça passe.
C'est une petite barre censure.
Ah, ouais, peut-être. Faut qu'elle soit bien censurée, par contre.
Absolument.
Bref, on est allé voir plein de panels, donc des artistes invités qui sont là pour jaser avec le public. Ce qui est différent un petit peu du Comic-Con de Montréal de plein d'autres Comic-Con, c'est que les artistes invités participent à des Q&A, donc questions et réponses. Q&R.
Q&A.
Ouais, ça c'est en anglais. Hein?
Mais ils traduisent pas.
Ah, ok, ça, Q&A. Fait que questions et à réponses.
Oui.
Ok, voilà, c'est ça. Il y a également des possibilités d'avoir des autographes de ces artistes invités-là, tout en payant une somme un peu faramineuse pour un simple orthographe.
Ben, ça dépend des artistes. Là. C'est quand même un agent externe qui gère ça.
C'est sûr, mais ça reste cher pour une écriture.
Écoute, on parlera des photos aussi. Là.
Les photos aussi, mais les photos, on a partagé le tarif à 3. Donc ça, c'est différent. On peut également prendre des photos avec les artistes invités selon une certaine horaire. Et les photos sont très, très, très rapides. Ne vous attendez pas à parler 2-3 minutes avec l'artiste. Vous n'avez pas le temps.
Là, on a calculé, c'est 6 secondes par personne.
Exactement. Donc le monde font la file. Et ting,
souris, ting, photo, ting, décris.
C'est ça. C'est un peu ça dit plus poliment.
On lui parle en anglais, fait qu'ils disent pas des cries.
Voilà. Donc on a vu beaucoup de panels quand même entre nous autres.
Oui, beaucoup.
Pour n'en nommer que quelques-uns, il y a eu tout le cast de la série Smallville. Presque tout. Non, presque tous. Il y a une actrice qui a pas pu être là parce qu'elle est en prison.
Quoi?
Oui, c'est vrai.
Ouais, il y a une des actrices de Smallville qui est en prison. Elle faisait partie d'une secte sexuelle.
Nexium. Est-ce que t'es Nexus?
Ouais.
Enfin, c'était une des leaders, une des ringleaders.
Oui. Que t'as écouté?
Ok.
Celle qui jouait Chloé.
Oh boy.
Ouais, c'est ça.
Oh
la petite,
boy.
T'es la petite blonde cute, là.
Ouais.
Ça, elle aime beaucoup le sexe.
Et oh, d'accord.
Elle est en prison maintenant à cause de ça. Donc, elle n'était pas à la convention, mais les autres acteurs étaient là. On a eu également Stephen Amell puis Devin Ramsey.
Oui.
De la série Arrow.
Oui.
Christina Ricci, qui était là pour les autographes et les photos. Techniquement, elle devait faire un panel, mais ça a été cancellé. On expliquera un petit peu plus tard pourquoi. Sean Astin et Billy Boyd.
Même chose.
Du Seigneur des Anneaux, même chose. On avait également le duo Jimmy Campbell Bauer et Grace Van Dien de la série Stranger Things. Donc Jimmy Campbell joue le rôle de Vecna, puis Grace Van Dien faisait la petite meneuse de claque qui meurt au début de la saison, de la dernière saison. On avait Emily Swallow et Paul Sun Young Lee.
Oui.
De la série Mandalorian. On avait John Barrowman de la série Arrow et de
Doctor Who.
Doctor Who, puis beaucoup de Broadway également.
Ouais, sinon c'est un
truc. Ce finaliste aussi.
Oui.
Oui, ce finaliste était là. On avait le trio John Delancey, Jonathan Frakes et Todd.
Stashwick.
de Star Trek, principalement Picard. La série Picard. On avait également John DiMaggio qui fait la voix de Bender. Bite My Shiny Metal Ass. Michael Shanks de la série Stargate SG-1, ce finaliste l'a dit, ainsi que quelques lutteurs dont Trish Stratus.
Trish, c'est la seule qui a fait un panel. Les autres
c'est la seule qui avait un panel, mais il y avait également Kurt Angle puis
Rhino,
exactement. Ainsi que plein d'autres qu'on n'est pas allé voir, mais ça, c'est principalement ceux qu'on a vus. Vite comme ça, Hugo, tes impressions sur les panélistes, sur ce que tu as vu, ce que tu as préféré, ce que tu n'as pas aimé, etc.
C'était une des années... J'ai pas fait beaucoup de Comic-Con au complet dans les dernières années. L'année passée, on est allé le samedi.
Ouais, c'est ça. Là, d'habitude, vous autres, c'est une journée. Moi, l'année passée, j'ai fait 2 jours. Cette année, j'ai fait les 3.
Ouais, c'est ça. Et j'avais assisté à des panels, surtout l'année passée et cette année.
Ouais, parce que même les années d'avant, tu travaillais également, je pense.
Ouais, j'ai travaillé. J'ai fait l'animation F2Z, Asmodee, etc. Ouais. Fait que souvent, j'avais pas le temps d'aller au panel. Ce que j'ai aimé, c'était. Mais on peut expliquer un petit peu là, qu'il y a une grève des acteurs
aux États-Unis. Une grève des acteurs et des scénaristes.
Et puis là, les acteurs ont embarqué aussi dans la grève.
Une journée avant le début du Comic-Con. Donc le jeudi 13 juillet, les acteurs tombaient en grève. Hein.
Fait que ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas parler des projets courants et à venir. Ils étaient autorisés à parler des projets dans le passé.
Et quoi, encore.
Mais quoi que c'est ça, ça dépendait de l'agent.
C'est ça.
Là, de ce que je comprenais en voyant les panels, des fois, ok, je peux-tu en parler, je peux-tu pas en parler. Puis il y en a qui, bon, ils préféraient ne pas en parler.
Il y en a qui sont laissés aller, puis il y en a qui ont simplement annulé.
Oui, il y en a qui ont annulé. Pour moi, Christina Ricci et Sean Assembly Boyd. Ouais. Sinon, il y en a qui, je sais pas s'ils faisaient partie du même syndicat, mais. On peut dire que Stephen Amell, David Ramsey, sans contre-torcher.
Ouais, mais ils l'ont dit carrément au début. Ouais. J'ai dit, on s'en fout de ce qui se passe, let's go, on jase.
Donc, ce que j'ai aimé dans la majorité des panels auxquels j'ai assisté, c'était à 90% la pertinence des questions des gens du public. Il y en avait des bizarres avec des fan theories.
Toujours des questions bizarres. Ouais. Exemple, quand la série a terminé, il y a quelqu'un qui a parti à un fanfiction. Penses-tu que ton personnage aurait continué exactement comme c'est écrit dans le fanfiction?
Ouais, je l'ai pas.
Ouais, non, il l'a pas lu, c'est un acteur. Il a pas lu ça, le fanfiction. Là. Lui, c'est sa job de jouer le personnage, puis c'est that it, là. Ouais, genre... saison 4, épisode 18, tu utilises telle affaire, comment c'était? Non. Il s'en souvient pas, lui!
Ben donc, c'est pour ça que je dis que 90% des questions sont pertinentes et les acteurs, les artisans,
les artistes, hein.
Sont très généreux dans leurs réponses, avec très reconnaissants des questions la grosse majorité du temps. Et honnêtement, c'est vraiment un beau moment.
Il embarque dans le game avec le public.
C'était quand même bien. J'ai beaucoup. C'est sûr que j'avais un intérêt particulier pour certains. Trish Stratus a été vraiment bonne. C'est le deuxième panel de lutte en 2 ans. On a vu Kevin Owens l'année passée. Ouais. Trish Stratus a été vraiment bonne. Très disponible. Elle, il n'y avait pas de concept de grève. Non, elle a parlé de sa carrière.
C'est son avantage.
Hein. Et, parce que là, ceux qui suivent un petit peu la lutte, elle est revenue en 2023. Elle avait pris sa retraite en 2006. Donc, c'était quand même le fun de voir un peu ce qui s'était passé dans sa vie entre-temps. John DiMaggio, j'ai beaucoup ri. Ou est-ce que lui est... J'ai appris que ce gars-là avait fait du stand-up. Avait commencé en faisant du stand-up. Et là, il avait appliqué sur des rôles de voice acting.
Ouais.
Et là, il fait des voix à temps plein. Depuis, on dit Bender, mais il y avait Gears of War. Il y avait dans plusieurs... dans Adventure Time. Ouais. C'est lui qui fait la voix du chien, que je me souviens pas du nom, mais...
Jake,
c'est ça. La voix du chien, tout ça. Fait que c'est quand même là un gros éventail. Sinon, bon, comme on disait, Stephen Amell, David Ramsey, eux, ils parlaient de leur projet Arrow, principalement. Ouais, ça, Stephen Amell, il y a une série qui s'appelle Heels sur Crave. Les fans de lutte doivent écouter ça, c'est très bien. Et là, la saison 2 s'en vient. Donc, il en a parlé un petit peu, mais c'était surtout sur Arrow, puisque les deux personnages avaient joué dans Arrow. Et mon préféré des panels, c'est John Barrowman, le déjanté. Arrive en espèce de robe de TARDIS de Doctor Who, en talon haut, il danse, il rit.
Il réagit beaucoup avec le public également.
C'est fou. Il est vraiment là, il répond à toutes les questions. À un moment donné, il teasait son mari qui est backstage, qui travaillait, puis là, il parlait, puis à un moment donné, il l'a fait monter sur scène pour répondre à une question. C'était vraiment, ouais, vraiment.
Si vous avez la chance de voir John Barrowman sur stage à un moment donné, allez-y. Moi, je l'avais déjà vu, donc je n'étais pas allé. Mais vous me l'aviez compté, puis j'avais des souvenirs de quand moi je l'avais vu sur stage.
C'est donc, le même genre de personnalité. Ouais. Sophie Nellis aussi, que j'ai vu seule, qui était vraiment reconnaissante, je veux juste le mot en anglais, mais reconnaissante d'avoir été invitée au Comic Con. Elle qui joue, j'ai fait la critique express de Yellow Jackets, justement, qui est sur Crave,
ouais.
Qui dit écoute, on m'a invité. J'étais comme, on va la dire, je suis pas vraiment une actrice tant connue que ça, mais elle était vraiment reconnaissante de ça. Un bon moment aussi. Et elle, c'est sûr qu'elle était en début de carrière, donc elle était très réservée. Ouais. Elle a parlé de ce qu'elle avait fait au Québec, entre autres les parents et d'autres séries. Puis après ça, ben, elle était plus réservée, mais elle parlait un peu de sa sorte de céréales préférées, puis des trucs comme ça. Les gens étaient vraiment.
Les questions vraiment ont vraiment gentils. Été. Ouais. Tourné en faveur justement du respect de la grève des acteurs.
Mais c'était mentionné au début, l'auditoire a respecté aussi. Oui. Des fois, il détournait un petit peu la question. Ok, mettons que tu ferais ça, puis c'était bien, là, j'ai beaucoup aimé.
Mettons que tu ferais une série qui s'appelle genre Méchant, puis que ça se passe dans un monde sportif. T'sais.
Quel genre d'athlète tu ferais, c'est mettons. Ça, fait que ça, c'était super bien fait. Donc, c'est des bons moments. Le pacing a été quand même mouvementé le samedi, là. Une chance que j'ai pas besoin de beaucoup m'alimenter sur l'heure du midi parce qu'on a couru beaucoup entre les panels, un derrière de l'autre. Chaque panel dure 45 minutes.
Ouais. Grosso modo. Donc,
à peu près, là, plus ou moins, parce qu'il y en a un autre souvent l'heure qui suit, fait que là, ils ont 15 minutes de buffer.
Ouais.
Fait que ça roule. Fait que j'ai beaucoup aimé mon expérience de beaucoup de panels cette année, comme je me disais les autres années, je faisais seulement une journée au Comic-Con.
Puis tu essaies de faire le tour des marchands et des artistes aussi.
Ouais, c'est ça. Il y a d'autres activités en plus. Fait que c'est ça, là, ça a quand même été vraiment bien. Je vais te laisser, toi, donner ton avis là, sur. Bon, par contre, on n'a pas fait tout à fait les mêmes panels. Là.
Non, en effet. Moi, je suis allé voir justement le cast de Smallville, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré cette série-là. Je dirais que la majorité des acteurs étaient là, mais il y en a vraiment plus. Il y en a qui parlaient vraiment plus que d'autres. Erica Durine de Durance a quasiment pas dit un seul mot. Laura Vandervoort, elle a très peu parlé. Donald Glover, oui, il a parlé, mais il est rendu à un certain âge de Donald Glover. Fait que bien souvent, sa mémoire fait un petit peu défaut sur bien des affaires. Fait qu'il semblait plus perdu qu'autre chose. Sinon, c'était Michael Rosenbaum puis Tom Welling qui parlait. Fait que c'est quand même sympathique pareil. J'ai adoré Stephen Amell et David Ramsey. De part, tu voyais vraiment leur intérêt à la série Arrow. Tu voyais que ça leur tenait, ça leur a tenu à cœur cette série-là.
Si je peux juste dire que ça vient de se terminer.
Ouais. Ça fait 2 ans que c'est terminé.
Ouais, mais je veux dire, c'est terminé récemment.
Ouais.
Donc, tu sais, c'est comme la fin pour eux. Stephen Amell continue sur d'autres choses. David Ramsey, un petit peu moins. On sait un peu moins ce qu'il va faire.
On l'a vu dans d'autres séries du Arrowverse.
Oui.
Mais sinon, le Arrowverse est officiellement terminé. Donc, techniquement, David Ramsey a officiellement terminé le rôle qu'il avait.
Fait que là, c'est ça, c'était un peu ça qu'il disait. Là, comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Mais on voyait que pour eux autres, ils avaient développé une amitié. Puis c'était une partie marquante dans leur vie. Ouais. Là, les 8 saisons, Arrow
9 saisons. 8, 9, 9, 9, 8, 9, 8. Flash, c'est 9, Arrow, c'est 8.
C'est ça.
Pas facile. ensuite, je vais aller voir les deux panélistes de Stranger Things. J'aime beaucoup la série Stranger Things. Deux acteurs plus ou moins connus. Jimmy Campbell Bauer est connu pour une autre série dont je me souviens pas, mais une série d'adolescents qui les adolescents trippent sur lui. C'est également un artiste musical. Donc, c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de questions, étant donné qu'ils pouvaient pas nécessairement parler de Stranger Things. Ils ont plus parlé de leur carrière et de la musique. C'était quand même intéressant, mais à cause de tout ça, on a peut-être manqué un petit quelque chose. Les deux artistes de Mandalorian, un peu la même chose.
Et eux sont connus sur. Ben, dans le fond, Emily Swallow avait joué dans.
Dans
Supernatural. Ils ont parlé un petit peu de ça. Mais Paul Sun Yun Lee,
ouais.
Lui c'était. Comment ça s'appelait? Kim's Convenience.
Ouais.
Qui est un acteur canadien. Lui, il a parlé un peu de ça aussi, mais c'est sûr que
il a surtout parlé de son expérience en tant que Canadien asiatique.
Oui.
Puis comment les Asiatiques étaient traités, ont été traités longtemps
dans ça, c'était vraiment intéressant. Ouais.
Le trio de Star Trek, c'était correct, mais ils parlaient tellement d'anecdotes d'entre eux autres, mais de même pas liés nécessairement aux séries, juste d'anecdotes d'eux autres qui se connaissent puis qui vivent à l'extérieur.
Ils ont vraiment évité
eux autres, ils voulaient pas parler de Star Trek, donc ils parlaient de n'importe quoi d'autre. Puis comme ils sont vraiment surtout connus pour Star Trek, ben ils sont plus rentrés dans leurs anecdotes personnelles. C'était bien, mais sans plus. J'ai beaucoup aimé Michael Shanks de Stargate SG-1. Très sympathique, très, très ouvert avec le public, très drôle en même temps. Il y a un humour que je ne savais pas qu'il y avait, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça.
Que quand sa femme est arrivée sur scène, qui est marquée avec Lexa Doyle, qui joue dans Andromeda, entre autres, qui était là aussi, mais qu'elle n'a pas fait de panel.
Puis il s'est fait poser une question sur laquelle de tes deux femmes dans les séries t'as préféré, celle dans Stargate ou celle dans Andromeda, qui est dans la vie personnelle devenue sa vraie femme. Là, il hésitait, puis il a dit, ouais, il faudrait vraiment. Puis là, t'as vraiment sa femme qui est sortie dans l'air pour lui dire, ok, t'as une bonne réponse, c'est moi qu'il fallait que tu dises.
T'as bien fait.
C'était quand même très, très drôle. Oui. Sinon, on avait aussi deux autres événements qu'on n'a pas mentionnés. Le Burlesque Geek.
Oui, le vendredi.
Qui est un show burlesque à la saveur geek. Donc,
allez-vous me laisser quelque chose à parler?
Oui, ben, je m'en allais vers toi après. Là.
Ok.
Je fais ce que moi j'aime, après ça, je parle de toi.
Ok.
Donc, on avait Burlesque Geek et on avait également la mascarade où là, les cosplayers qui se sont inscrits font une petite séance sur la scène et gagnent des prix par la suite. Selon les catégories. Beaucoup, beaucoup de marchands. Encore une fois, beaucoup d'artistes. Ce que j'ai aimé de cette année, c'est qu'ils ont changé un petit peu l'environnement,
la configuration,
ce qui a laissé un petit peu plus d'espace entre les allées, mais je pense qu'il en méritait encore un petit peu plus, parce que moi, ce qui me fâche, c'est le monde qui ne savent pas marcher, le monde qui ne savent pas se promener dans des allées, qui font du va-et-vient devant, arrière, tout, il y a plein de monde qui passe, pick a side, garde ce side-là, puis refais le tour après.
C'est sûr que le samedi après-midi, là, on est vraiment dans le top. Là,
c'est ça, tout le monde qui arrive avec... Wow!
Excusez. Mon Dieu, j'en ai fait un saut, que c'est ça.
Merci à la moto, je crois.
Oui.
Le monde qui se promène dans les allées avec des poussettes doubles, triples, t'es comme... En tout cas... Tant qu'à moi, restez à la maison si vous n'êtes pas capable de trouver des gardiennes. Hein. Mais je ne suis pas parent, donc je ne peux pas vraiment m'aligner là-dedans.
Sois tolérant, Yugi.
Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai peut-être un petit peu moins aimé et ce que j'ai aimé. Marie, qu'as-tu aimé du comic?
Ben là, comme l'impression que tout a été dit.
T'as le droit d'aimer les mêmes choses que nous.
Ok. Oui?
Oui.
Ah, bon, ben c'est super. Ben moi aussi, ben vu que j'étais avec mon mari, c'était la première fois que je faisais les trois jours.
Oui.
Fait qu'habituellement, on clenche comme un échantillon d'un peu de tout.
Oui, parce qu'on essayait de faire la salle marchande, plus les panels.
Plus une coupe de panels, fait que c'était très sélectionné, tu sais, bon, de...
deux, trois, max.
Ouais. Fait que là, tu sais, d'avoir trois jours,
Moi, j'aurais une question, vas-y, commence, puis j'ai une question pour toi.
Ah, ok. De l'avoir fait trois jours, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir pris le temps le vendredi de faire la zone marchande. C'est sûr qu'on avait en plus un intérêt supplémentaire parce que notre fille et notre gendre faisaient partie des artistes sur place. Fait que c'est sûr que, bon, la maman fière en moi devait aller quand même zioter toute l'affaire. Qu'est-ce que tu vas faire?
Suivez Special Brew sur Instagram.
Ah, ok.
Donc, infusion spéciale en français. Special Brew. Mm-hmm. Donc, c'est leur nom de kiosque.
Exactement. Donc, ils font quand même quelques apparitions dans certains événements du genre.
Oui.
Bon, j'ai pu enfin acheter mon chapeau de pirate que je lorgnais depuis des années. Ça, pour moi, ça a été un grand bonheur. Le lundi était aussi, le vendredi était aussi une journée plus tranquille côté cosplay. C'était pas encore les gros costumes qui étaient là. Fait que moi, ce que j'aimais, c'est que ça me donnait le temps de regarder ceux qui avaient des gros costumes. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement surchargé que tu sais plus où regarder. Ouais.
En regardant les photos sur le Facebook ou l'Instagram du Comic-Con, tu fais hey, « j'ai pas vu ça pantoute. »
Mais souvent aussi, la majorité des photoshoots se font dans le lobby.
Ouais.
Donc, comme on se tient pas souvent dans le lobby, on est plus dans la salle principale, mais tu sais, les méga gros photoshoots, on les voit pas. Ouais, donc, puis souvent, ceux-là qui ont vraiment travaillé fort vont plus rester là justement pour les
photos pour
se faire exposer.
C'est ça. Puis ben, en dessin, ce qui est intéressant, c'est d'aller capter un peu l'étrangeté des gens au travers de tout ça. Il y en a qui se transforment en leurs personnages. Il y en a qui s'inventent des étranges personnages aussi. J'aimais un peu capter ça, parce que je m'étais dit que cette année, j'allais dessiner mes vacances. J'ai trouvé très drôle aussi le nombre de paires de fesses qu'on pouvait voir très facilement sous des jupes des demoiselles, surtout dans cette ère de hashtag MeToo. J'étais comme, ok, on a encore une fois deux langages.
Ouais, là. Mais le Comic-Con a quand même pris la peine de mettre plusieurs pancartes qui indiquent clairement que le cosplay n'égale pas le consentement.
Ouais, c'était bien fait.
Non, mais ça, puis ça, je suis vraiment d'accord. Mais tu sais, dans un... Je trouve que dans un air d'aller où est-ce qu'on est tout le temps en train de... Oh, les filles sont pas des objets sexuels, mais on se déguise en soubrette avec les foufounes à l'air, le petit plumeau, puis on s'amuse à faire de l'œil à tout le monde. Tu fais, ok, tu le veux pas, mais tu le veux.
Ouais, c'est comme... En même temps, la culture nous amène à ça, parce que le monde qui se déguise en personnage de film, en personnage d'anime, en personnage de jeu vidéo, et dans ce monde-là, sont pas encore rendus au même niveau que la société, sont encore au niveau des jolies femmes au décolleté, tu sais.
Je sais, mais tu fais un choix.
Oui, mais...
Je veux dire, tu choisis d'aimer ça. J'aime ce discours contradictoire. Moi, dans la vie, j'aime les discours contradictoires. Le Burlesque Geek, j'ai adoré, mm-hmm. j'ai ri, c'est extraordinaire. Moi, je ne veux pas manquer ça. En plus qu'ils ont annoncé qu'ils venaient au Comic-Con de Québec cette année, tout nouvellement. Fait qu'écoutez, faut que vous alliez au Comic-Con de Sorèze que pour voir le Burlesque Geek.
Que vous soyez fan de Burlesque ou non.
Oui, exactement. C'est faut vraiment... Que vous y voyez ça, moi, c'est tout public. C'est drôle.
C'est vraiment 18 ans et plus.
Ouais,
oui, mais tout public voulait pas dire, genre, emmener vos enfants.
Non.
Tout public voulait dire les gens qui connaissent le Burlesque. Les gens qui sont curieux du burlesque et les gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils s'en vont voir.
Mm-hmm.
Parce que c'est fait avec énormément d'humour. Puis bien entendu, c'est geek, fait qu'on reconnaît plein de costumes et plein de clins d'œil et plein d'affaires. Fait que non, ça, j'ai adoré cette soirée-là. Le samedi, moi et mon conjoint, on était costumés. Donc, on avait décidé que cette journée-là, on allait porter nos costumes. Mon chum faisait un cosplay. Moi, je faisais de l'original. Ça ne me tentait pas de voir personne déguisé en ce que j'étais déguisée. Fait que ça a ajouté un petit quelque chose de plus, je trouve. Parce que ça mettait une petite attitude à nous, cette fois-ci. C'était à nous de jouer le personnage. Mais samedi, il y avait tellement de monde. Mais il y avait tellement de monde que...
Samedi, c'est tout le temps pire.
C'est ça. C'était pas nécessairement comme la plus chouette. J'ai beaucoup aimé aussi, là, je sais que mon ami a parlé contre les enfants, des garder à la maison, mais j'ai eu une couple de coups de cœur, moi, pour une bébé Elsa, entre autres, toute adorable, avec ses petites mini-tresses dans ses cheveux blonds, tu sais, puis sa petite robe, puis ses petits souliers. Bébé Batman, absolument adorable, avec encore les genoux bloqués, surveillé par Papa Joker. Coup de pouce à ça.
Mais la grande majorité, justement, des familles qui cosplayent leurs enfants sont à la base déjà amateurs, donc connaissent déjà la game.
Oui.
Savent pour la majorité comment se comporter dans un événement comme ça. T'sais, c'est souvent ceux-là qui viennent par curiosité. Ou puis qui disent on va acheter plein d'affaires, ça qu'ils viennent magasiner en famille. Ouais, non, c'est pas un magasin que tu viens ici, là, c'est un événement.
Ça.
Là.
C'est ça.
C'est ça qui gosse
fait
plus.
Que, c'est ça. Fait que ça, regarde, ça a été vraiment mes petits coups de cœur. C'est très drôle de voir bébé Batman en crise sur l'épaule de Papa Joker parce que lui voulait continuer à explorer l'espace. Là. C'était absolument adorable. J'étais contente, j'ai trouvé Charlie aussi dans tout cet événement. J'ai réussi à trouver Charlie. J'ai même trouvé une Charlie. Aussi. Donc, j'ai trouvé les deux. Je trouve toujours drôle aussi comment qu'à chaque année, le Harley Quinn est comme un des cosplays les plus faits. Je l'ai vu pas mal à tous les types de saveurs, de tous les jeux qu'il y a eu, de tous les films, de tous les derniers, les plus vieux, les réinventés aussi. De toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs, de tous les genres de beauté possibles. C'est quoi qu'encore une fois un coup de cœur pour les plus petites Harley Quinn, là, mais quand même.
Beaucoup
mais quand
de princesses de Disney aussi.
Ah oui, oui, oui. Tu sais, quand tu veux vivre ton rêve de petite fille, puis tu croises la gang de filles qui font toutes les princesses de Disney et qui sont belles à croquer toute la gang et qui jouent leur jeu extraordinaire, on s'entend que ces enfants-là se lavent plus les yeux de leur vie.
Mm-hmm.
Ils viennent de vivre un moment extraordinaire. Et d'ailleurs, merci aux cosplayers qui comprennent l'amour qu'ils peuvent susciter chez les enfants et qui vont jouer le jeu pour eux autres. Je sais qu'il y en a qui voient ça comme quasiment agressant, l'enfant qui vient les voir et qui, mon Dieu, est fasciné par eux. On a juste l'habitude des gens. Je peux-tu prendre une photo avec toi? Ah ben oui. L'enfant, lui, voit pas quelqu'un qui est déguisé. Il voit ce qu'il connaît.
Ouais.
Tu sais, c'est comme vous devenez ce qu'ils aiment. Fait que moi, un chapeau à tous ceux qui jouent le jeu avec les enfants, que ce soit tous les personnages de Star Wars, que ce soit les princesses, que ce soit les Vikings. Les Vikings sont ça à coche, ouais, à chaque année. Les Vikings. Puis, tu sais, c'est ça. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, je lève mon chapeau à ça. Je lève aussi un chapeau à tous ceux qui n'ont pas l'origine du personnage, mais qui le font quand même. Donc, de voir une Supergirl, mais noire, avec les cheveux, les attaches à l'intérieur, elle le porte fièrement. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois. J'aime ça. Celle qui porte le jab, qui arrange tout leur jab pour que ça fitte avec le costume. Je trouve ça aussi extraordinaire. Quelle belle façon de prendre sa place dans la société, puis de dire on est là, on existe, puis nous autres aussi on aime ça. Fait qu'en respectant notre culture, on embarque dans votre culture aussi. Fait que je trouve que c'est un beau melting pot d'amour, un Comic-Con.
Ouais.
Parce que tout le monde y va pour l'amour du costume, de l'animé, de la bande dessinée, du film. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun. Et les jeunes se reconnaissent aussi beaucoup, 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 beaucoup. Ça se fait... Je pense que j'ai jamais vu ma fille avoir autant d'amis que lorsqu'elle est dans un Comic-Con. Et ça aussi, je trouve ça extraordinaire, surtout dans leur génération, à être tout le temps sur leur téléphone. Là, il n'y en a pas un qui est là-dessus. Tout le monde est trop occupé à être dans son...
Oui, il n'y a pas de réseau.
En plus.
Mais ça crée le monde geek, parce que j'entends souvent du monde, ah, Comic-Con, c'est pour les geeks, c'est pour le monde qui aime les costumes. J'ai dit, oui, mais c'est tellement plus, puis ça crée tellement plus, ça crée une fraternité entre le monde.
Oui.
Ça crée une reconnaissance, ça crée une compréhension, puis un respect. Ça crée vraiment beaucoup plus de choses que le monde pourrait juste penser en voyant du monde déguisé dans la rue.
Ils travaillent fort. Là.
Ah, il y en a, c'est des heures et des heures et des heures sur leur costume.
Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est... T'as l'impression que t'as pris le personnage en jeu vidéo puis tu l'as mis en vrai. Ouais. Là. C'est fascinant. Et mon autre coup de cœur va être au divan du Comic-Con.
Oui, c'est vrai. Absolument.
Moi, il n'y a pas une personne que j'ai vue qui n'a pas réagi d'une façon ou d'une autre au fameux divan et fauteuil qui était là pour les panels de questions. Il y a Trish qui est complètement disparue dans le fauteuil lorsqu'elle s'est assise. Il y en a qui ont bondi dessus, il y en a qui l'ont flattée, il y en a qui se sont couchés dessus. Il y en a qui ont fait un saut. Soyant, il y en a qui ne comprenaient pas comment s'asseoir là-dessus. Moi, ça m'a fait rire. C'était devenu comme... Oui, il y en a qui sont même restés debout parce qu'ils trouvaient ça finalement trop désagréable. L'espèce de trop mollasse du divan. Je ne sais pas trop.
Il était profond.
C'est
acidant puis tu cales
quand même. OK, profond et délicieux. Comme
le gâteau. Exactement.
Okay.
Oui, c'est ça. J'ai pas goûté, mais...
Fait que c'est ça, moi ça a fini par s'ajouter à mon plaisir de OK, le prochain panel, ils vont réagir comment les gens, et j'ai pas été déçue une seule fois. Puis le dimanche, ben moi je me suis moins promenée parce que j'ai aidé ma fille à son kiosque. Fait que moi j'ai été un peu plus sur place. Fait que j'ai vécu un petit peu ce que
les artistes
vivent. Fait que cette abondance d'amour et d'admiration et de qui fait franchement du bien. Donc, même à une maman qui avait pas ses affaires avant, c'était pour les enfants que j'étais là. Quoique, j'ai quand même réussi à vendre un dessin que je m'amusais à faire pour passer le temps et aussi me canaliser un peu pour être sûr que les nerfs n'embarquent
pas. Ta note?
Ma note sur le Comic-Con de Montréal, moi, je te dirais 8 sur 10, facile. Je dirais les points que j'enlèverais, c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever malheureusement au Comic-Con. et c'est l'odeur.
L'odeur des geeks, hein?
S'il vous plaît, apprenez c'est quoi du Axe et du Tout-Bras, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon Dieu. Lavez-vous avant de mettre votre costume.
Il y en a que tu peux comprendre parce que ce sont justement en dessous de leur costume. Oui. C'est 8 heures qu'ils sont en dessous, ok, ça je peux le comprendre. Mais quelqu'un qui est en short puis en t-shirt, puis que tu sens le fond du sous-sol pas lavé. Man, toi, tu te bras, là. Je sais, encore là, c'est une question, de respect envers le monde qui t'entoure, puis c'est une question de savoir vivre dans un événement comme ça, là.
Exact, exact.
Fait que 8 sur 10?
Ouais. Puis je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de collation sur le plancher marchand comparé aux années d'avant. Où est-ce qu'on avait soit du popcorn, soit... tu sais, on avait toujours comme un peu... Ouais, c'est ça, une espèce de concept de collation sur place. Ça nous obligeait à aller très loin pour réussir à manger, ce qui devenait compliqué avec les panels en plus, puis tout ça. Ça, c'est mon point négatif là, que je trouve. Je trouvais que l'année passée, là, avec la slush, le popcorn, là, ça faisait vraiment une belle collation. Ça faisait que tu tenais longtemps, puis que tu pouvais attendre au souper là, sans avoir absolument à dîner. Parce que moi, je fais partie des gens qui doivent dîner dans les
Moi, je vais y aller avec un 8.5. Je pense que c'est la note que je donnerais à chaque année pour le Comic-Con de Montréal. C'est une note bien générale qui englobe pas mal tout ce que j'aime. Et le 1.5 de perdu, c'est pas mal ce que je dis aussi. C'est le pas savoir vivre du monde dans les allées. Cette année, peut-être à cause de la grève, on a peut-être perdu un petit peu de ce qu'on a d'habitude dans les Q&A. Mais sinon, d'ordre général, je pense qu'un 8.5, c'est une très bonne note qui tient la route pour le Comic-Con.
Ben, moi, je trouve que, d'un autre côté, ça a permis aux gens de pas juste parler des projets-là, mais de parler d'autres choses.
C'est sûr.
Fait que ça, c'est, des fois, c'est intéressant de voir les... Puis peut-être les acteurs aussi sont contents de parler d'autres choses que du même rôle. Moi, je vais dire 8 sur 10 aussi. Pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est des fois, comment je dirais ça, entre les panels, c'est sûr que là, même si, comme le samedi, c'était une journée vraiment occupée, mais des fois, j'avais comme des trous, là, c'est comme, ouais, ok, je vais à la salle marchande, mais je suis comme, tu sais, faut que je sorte, j'aime me promener, il faisait beau, c'est correct, mais des fois, j'ai eu comme des flottements entre des sections, ce qui fait que j'étais comme, ah, ok, tu sais, c'est à voir, peut-être au niveau de la planification, de qu'est-ce que je ferais, etc. Mais tu sais, à part la salle marchande où c'est un gros centre d'achat, puis les panels, il y a comme, je sais pas, il y aurait peut-être de quoi entre les deux pour s'occuper autre. C'est l'impression que j'avais, que j'aurais peut-être aimé, soit des projections de films X ou de publicité. Tu sais, il y avait la zone indie gaming.
La zone indie gaming, mais tout le temps pleine.
Ouais, mais je suis pas un gros gamer. Tu sais, moi, essayer des jeux indie, j'ai pas tant d'intérêt. La section de jeux société, qui était quand même intéressante. Là, j'ai vu un peu des gens que je connaissais chez Asmodee Canada, qui avaient des démos, des trucs comme ça. Mais sinon, c'était comme. J'avais comme des fois, je savais comme pas trop quoi faire. Fait que. C'est ça. C'était juste ça, un 8 sur 10.
Bon,
je fais
pas mal une bonne note de 8 sur 10 en total pour le Comic-Con. Je vous le recommande fortement, que vous soyez un grand amateur ou non. Pas besoin d'aller là les 3 jours. Si vous n'êtes jamais allé, allez-y peut-être le vendredi ou le dimanche. Parce que le samedi, c'est une grosse journée remplie de monde.
Les panels, c'est beaucoup le samedi.
Les panels, c'est beaucoup le samedi. Mais tu sais, si tu veux juste avoir une première expérience, je pense que soit le vendredi ou le dimanche, peut-être plus le dimanche, donne un très bon avant-goût de si tu irais là 2 jours ou 3 jours. Mais je le recommande beaucoup. Dans le pire des cas, essayez le Comic-Con de Québec. Si vous
qui est plus familial.
Qui est beaucoup plus familial.
C'est pas compris. Il y a pas de panel.
Très peu de panel, mais ça donne un avant-goût de ce que Montréal pourrait être.
Au goût de la salle marchande.
Si vous êtes à l'extérieur du Québec, ben, vous avez d'autres Comic-Con un peu partout dans le monde. Donc, essayez-en un. Ça vaut vraiment la peine, à mon avis. Si vous êtes évidemment amateur ou si vous êtes plus curieux qu'autre chose, le Comic-Con de Montréal l'année prochaine. En juillet, j'ai vu, je pense, 4, 5, 6. Début, vraiment, quasiment la première semaine de juillet. Regardez les dates si ça vous intéresse. On passe maintenant au un des films qu'on a écouté durant nos vacances.
Ben oui.
Comédie d'action, disponible sur Netflix. Film de 2023 1h35. The Outlaws. Mot de jeu avec les in-laws, qui est les beaux-parents.
Et outlaw.
Et outlaw, qui est des cambriolés, des criminels. C'est réalisé par Tyler Spindle, qui me disait absolument rien, puis je regardais sa filmographie.
Il y a une raison.
Il y a une raison. Hein, il a réalisé beaucoup, beaucoup de trucs, de comédies un peu loufoques, et de trucs d'action. Moi, j'ai noté Deported puis Father of the Year. C'est les deux qui me disaient un petit quelque chose, mais sans plus. Les autres me disaient absolument rien. Ça met en vedette quatre acteurs principaux qui sont majoritairement connus. Adam Devine dans le rôle principal de Owen, qu'on a connu dans le film Pitch Perfect, et dans la série Modern Family. Oui. Il fait depuis beaucoup de films comédies un peu niaiseuses, disons ça comme ça. Là. On a également dans le rôle de Parker Nina Dobrev, qui me disait absolument rien, puis une raison, elle a joué dans XXX Return of Xander Cage, merveilleux film avec
Vin
Diesel. Elle a joué aussi dans The Perks of Being a Wallflower, qui est un film connu mais que j'ai pas vu, et principalement dans la série Vampire Diaries.
Mais j'en avais fait une critique d'un film avec Nina Dobrev, un film de Noël, genre où est-ce qu'elle faisait du catfish, où il y a un gars qui faisait du catfish sur internet, elle décide d'aller le rencontrer, puis finalement c'est un jeune genre gars dans son sous-sol. Je me suis fait, je retrouve le titre du film. Avec Maryse, on avait fait une critique.
Ouais, express. c'était Die Hard.
Non.
Mais non, c'était le mélange de son film d'action préféré puis de son film d'amour préféré. Love Hard ou Hard ou.
Oui, Love Hard. C'est ça. Love Actually puis Die Hard. C'est ça.
Okay. C'est ça, oui. Sinon, ça m'a en vedette également Pierce Brosnan dans le rôle du beau-père qui s'appelle Billy. Pas vraiment besoin de vous dire qui est Pierce Brosnan. Pensez juste James Bond. Pis...
GoldenEye,
vous allez reconnaître tout de suite l'acteur. Ainsi que dans le rôle de la belle-mère du nom de Lily, Ellen Barkin, qui à l'écran me disait quelque chose.
Oui, sa face me dit quoi.
Mais je regarde sa filmographie et ça me dit rien pantoute. Elle a joué dans Drop Dead Gorgeous, que j'ai pas vu, mais qui est connu. Sinon, elle a joué dans Ocean's 13, un petit rôle que je me souviens même plus du rôle qu'elle fait. La série The New Normal, qui... petit quelque chose, mais que j'ai pas vu non plus. Bref, disons que Adam Devine et Pierce Brosnan sont vraiment les deux acteurs plus connus des quatre. Maryse, dis-nous la... C'est quoi l'histoire de The Outlaws?
Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme très bricoleur, qui aime beaucoup faire des maquettes pour exprimer toutes ces choses, très geek.
Qui est banquier.
Parfois me donnait des petites vibes de Guy dans
Free Guy,
ok,
merci, il me donnait un petit peu des vibes de Free Guy de temps en temps, donc super fier d'être la personne en charge de sa banque, mais personne ne le prend au sérieux, puis ses parents le prennent pas au sérieux.
Un peu hyperactif aussi.
Très hyperactif, en effet. Puis là, il rencontre ses beaux-parents pour la première fois, puis ce sont des gens...
À la veille de leur mariage.
À la veille du mariage, et là, ce sont des gens cool, des gens branchés, deux belles personnes...
Qui sont tout le temps en voyage.
Qui sont toujours en voyage, qui ont, semblerait-il, fait le tour du monde. Donc, il cherche, bien entendu, comme dans tout bon film du genre, à impressionner ses beaux-parents. Malheureusement, pour les impressionner, il finit par en révéler un petit peu trop sur son travail, ce qui fait que, en bout de ligne, sa banque se fait cambrioler, là, se rend compte que...
Les cambrioleurs.
Ce sont ses beaux-parents, mais là, ses beaux-parents, c'était pour régler une dette, pour être sûr que leur fille ne soit pas en danger. Mais là, finalement...
Toute l'action s'ensuit.
Ça devient Et il doit lui-même devenir un voleur de banque pour sauver sa bien-aimée pour leur mariage. Et un beau chapeau à celle qui jouait la mère de Davy dans Never I Have.
Oui, elle joue la méchante.
Qui joue la méchante là-dedans et qui joue une méchante absolument sublime.
Complètement débile.
Absolument. J'aurais peur de cette personne-là.
Le personnage est folle.
Elle est
complètement folle.
C'est, oui, ça donne des frissons d'horreur.
Oui, vraiment.
Et voilà, en gros, c'est pas mal ça.
Hugo? Oui. Commentaire?
OK.
Opinion? Critique?
Oui. Mes attentes étaient pas très hautes.
Ah, mes attentes étaient très basses, moi.
Je voyais la bande-annonce, je fais « Ah, moi, OK, tu sais, genre, film d'action... »
Moi, je voyais Adam Devine tout de suite, j'ai fait « Ok, c'est une comédie niaiseuse. »
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avec Chris Bronson, que je fais « Ouais, ok, tu sais, il est capable de faire des bons trucs. » Mais là, je vois la bande-annonce, c'est Netflix. Mes ententes, quand c'est un film, mettons, produit par Netflix, mettons, je fais comme, ouais, c'est rarement des grands scénarios. Je bah, tu sais, on était en vacances, c'est un soir à l'hôtel, je fais comme, on va écouter ça, ça va être chill. C'était mieux que je pensais. Mes attentes étaient comme pas très hautes, puis finalement, j'ai fait, je me suis pas ennuyé.
Non, j'ai diverti ça.
Oui,
j'ai écouté le film, j'ai fait.
Il y a des très bons gags.
Oui, il y a un gag comme... de James Bond que j'ai particulièrement
oui.
ri.
Oui.
Sinon, oui, il y a plusieurs bons gags que tu fais. J'ai ri à plusieurs endroits.
Enfin, moi, tu vois, j'étais contente aussi de ne pas voir Bumper de Pitch Perfect parce qu'il y a souvent tendance à faire ressortir ce personnage-là lorsqu'il se met à chanter, entre autres, et tout. Puis là, je trouve qu'il commence peut-être à prendre l'expérience. Peut-être qu'il
commence là, aussi à pouvoir se déconnecter un peu de cette image-là.
Exact. Fait que, tu sais, moi, ça m'a comme...
Ouais.
Ça m'a satisfait de pas voir encore et encore et encore Bumper comme il rejoue qu'importe le rôle qu'il joue.
Ouais. Bonne action.
Oui,
il y a quand même l'action est à mon avis après peut-être la première après le vol de banque qui se produit peut-être à une demi-heure du film.
Ouais.
L'action n'arrête pas.
Oui.
Jusqu'à la fin du film.
Oui, absolument.
Fait qu'il y a une petite première demi-heure de présentation des personnages. Puis une fois que le vol de banque est fait, on dirait que l'action découle du début jusqu'à la fin.
Oui, puis c'est ça.
C'est pas une action over the top, tu sais.
Non, mais c'est les scènes de fusillade, de vol de banque, de. Tu fais comme. Ok, ben tu sais, c'était quand même.
C'était pas over the top, c'était pas exagéré. Un peu niaiseux des fois, mais pas trop non plus pour que tu dises ah, c'est grave, tu sais.
Non.
C'était juste assez pour faire rire puis pour divertir.
Oui.
Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le film? Parce que honnêtement, c'est une comédie d'action. T'as pas besoin d'allumer ton cerveau pour écouter ce film-là.
Non.
C'est un film de fin de soirée que t'écoutes justement
pour te
détendre,
avoir
du plaisir, bien finir ta journée.
Oui, c'était correct.
T'sais, y a pas vraiment de gros points négatifs à dire.
Ben, l'histoire est tirée par
l'histoire. L'histoire, oui.
Mais c'est
le scénario, c'est correct, c'est très léger.
C'est très léger, mais je pense négatif.
Là.
Mais je pense que c'est, tu t'attends à ce que ça soit léger comme ça.
Oui.
Tu t'attends pas à un gros scénario complexe, non. Compliqué, bien écrit. C'est simple, c'est facile. Tu ris, il y a de l'action. Moi, je pense que c'est un bon élément complet.
Si tes attentes sont ça, tu vas être satisfait.
Si tes attentes sont ça, ça va être satisfait. Ouais. Ce qui m'amène peut-être aux attentes que les critiques avaient peut-être. Les critiques sont mauvaises. Les critiques sont vraiment pas bonnes. Laisse-moi les dire.
Oui, vas-y.
IMDb, qui est à la base déjà très sévère en général, 5.4 sur 10. C'est la note, je pense, que je m'attendais d'IMDb pour une comédie d'action de Adam Devine. Je m'attendais pas à un 8 sur 10 d'IMDb.
Oui, oui.
Metascore, 36. Wow. C'est très, 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 très bas.
Oui, vraiment.
Rotten Tomatoes, pour les critiques, sur 66 reviews, on est à 21%. Et sur l'audience, 500 plus de ratings, 37%.
C'est sûr,
très bas.
Ça dépend toujours de tes critères. Si eux autres, ils font les critères, par exemple, comparé à... Si eux autres, leurs critères sont toujours les... Dans le fond, ces gens-là, c'est leurs critères sont toujours les mêmes.
Ben, les critiques.
Les critiques,
c'est ça. Au niveau de l'audience, c'est autre chose. Là.
Non, mais les critiques, leurs critères sont toujours les mêmes. Donc, mettons, le scénario, l'interprétation, les effets spéciaux, etc., etc., c'est sûr que si tu compares des films genre Dark Knight Rises de Christopher Nolan, qui est un film d'action-ish, ou pas un autre film, à ça, ça sera pas la même note.
C'est ça.
T'sais, nous, on va y aller avec nos attentes. Souvent, la note va représenter nos attentes. Fait que, tu sais, je peux comprendre les bases critiques, parce que si tu compares à plein de films du genre, ça marche pas.
Ça marche pas. Mais il faut aussi garder en tête qu'il y a une tendance, depuis peut-être un an ou deux top, au niveau de ces sites-là, justement, où tout le monde peut aller mettre une note, il y a énormément de bashing.
Oui.
Il y a beaucoup de monde qui, sans même avoir vu le film, vont aller donner une note de 2 sur 10 simplement parce qu'ils trouvent ça drôle.
Ou qui n'aiment pas l'acteur.
Ou qui n'aiment pas l'acteur, ou XX raison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bashing. Et des sites comme Rotten Tomatoes sont obligés d'essayer de rebalancer
avec
d'autres bonnes critiques pour essayer de remettre une note semi-normale.
Ben, la note des critiques, tu dois être un critique comme reconnu par le site.
Ouais, ouais. Mais tu sais, au niveau de l'audience, sur IMDb, c'est pas mal n'importe qui est capable
d'aller donner
des notes. Il faut juste soit enregistré. Donc, tu sais, faut vraiment prendre ces notes-là avec un très gros grain de sel depuis un an ou deux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bashing. Oui. On va juste prendre tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC. Il y a vraiment une communauté qui se donne une mission de leur donner les notes les plus désastreuses.
Ils ont réussi avec Eternals.
Exactement, tu sais, mais Eternals, c'était une grosse boîte, ça. Mais on va en parler plus tard avec Secret Invasion. J'ai regardé les notes, puis j'étais comme...
Ouais.
Je suis pas d'accord avec les notes qu'ils ont données, tu sais.
On regardera.
Mais bon, on regardera. Ma note à moi, parce que j'ai honnêtement pas grand-chose à d'autres dire sur The Outlaws, moi je donne un 8.5 sur 10. Hein. Je pense que c'est une bonne note bien méritée. Je m'attendais vraiment à rien. J'ai été agréablement surpris. J'ai aimé la soirée qu'on a eue à écouter ce film-là. Je vois pas pourquoi je donnerais plus bas pour une comédie d'action divertissante.
Ben moi, je vais donner plus bas.
Ben, donne plus bas.
Okay. Je vais donner... Je vais donner 7.5 sur 10. Mmh. Parce que Adam Devine, il m'énerve.
Ouais, OK.
C'est le personnage... Le personnage, c'est correct, c'est drôle, mais le jeu, la performance d'Adam Devine...
Le jeu est borderline improvisation.
Ouais, ça me gosse. Puis il m'énerve. Puis je le trouve pas crédible dans aucun de ses rôles, sauf dans Pitch Perfect. Mais je le trouve pas crédible comme gérant de banque. Fait que là, c'est comme, ouais, bon, il est là le point. Parce que le reste, j'ai été diverti. Pierce Brosnan et celle qui fait sa femme sont fucking drôles.
Ouais.
Celle qui fait la méchante, là, ça, je me souviens pas, là, mais qui joue Nalini dans Never Have I Ever, elle est vraiment bonne, folle réelle.
La façon que ça se termine, la façon que qui battent les méchants,
c'est comme... ridicule. Wow, okay. Nina Dobrev est bonne aussi, mais Alan Devine, je le trouve pas bon.
Ouais.
Puis sa performance me gossait tout le long, fait que ça a perdu un point. Pour moi.
D'accord. Marise?
Je vais y aller avec 7.5 sur 10.
Okay.
Je suis divertie, je suis contente, je le réécouterai pas.
Non, c'est pas un film que tu réécoutes plusieurs fois. Ça, c'est sûr que non.
Tu as compris après une fois.
Ouais, c'est ouais.
Exact. C'est peut-être que je prendrais des bouts juste pour dire ceux-là, c'est mes préférés. J'ai vraiment trouvé ça drôle. Ça serait probablement toujours les bouts avec la mère à Davy.
Ouais.
C'est ça. Puis c'est. Moi, pour les tout petits chiens de garde, là, moi, ça m'a vraiment fait rire.
Il y a le joke du pâtissier aussi, mais je la spoil.
Ouais, non, c'est ça, faut pas tout spoiler, mais oui. Fait qu'on dit quoi, 7.8?
7.5 plus 7.5, ça fait 15, plus 8.5, ça fait 23.5, presque 8.
On y va brièvement.
7.75.
On y oble les mathématiques, là, 7.8, hein. Je pense que ça passe bien.
C'est ça.
7.8 sur 10 pour The Outlaws. disponible sur Netflix, actuellement, film de 2023. Allez l'écouter si on vous a donné le goût. Ça vaut la peine quand même d'être écouté. Puis sinon, ben écoute, on vous a évité d'écouter une comédie qui vous tentera pas. Voilà.
Exact.
On passe donc au deuxième film qu'on a écouté durant nos vacances à Ottawa. Film dont moi j'étais confortablement accouché sur mon lit et Hugo de me dire « Hey, on va écouter ça. Voici la prémisse. » Et moi de faire « Ah ouais? » Ok.
Ok.
On parle du film X.
De moi, Fate.
Vas-y.
Parce que moi, j'avais remarqué. Moi, je suis un fan de films d'horreur.
Oui, mais moi aussi, j'aime les films d'horreur.
Des slashers. Et j'ai vu la bande-annonce sur Prime Video. J'ai fait ok. Ça peut être intéressant. Ça peut être
différent.
C'est nouveau, c'est différent. Bon. Donc, X, film de 2022, d'une heure 45. Donc, on dit horreur, mystère, thriller. Réalisé par T. West, qui a réalisé Pearl, qui est l'autre film qui est fait étant
genre
le prequel.
Genre le prequel de X.
À X, je l'exclus. Cabin Fever 2 et The Innkeepers.
Ouais. C'est principalement juste des films d'horreur ou des épisodes de séries d'horreur.
Qui met quand même en vedette des gens connus, c'est ça que j'avais comme trouvé intéressant.
Ben,
en
regardant. Oui et non.
Ben, non, mais quand même, Jenna Ortega, qu'on voit un peu partout, qu'on a vu, qu'on a la nouvelle mouture de Scream, la nouvelle génération Scream 5 et 6, dans Wednesday, justement, la série sur Netflix.
De la famille Adam.
Oui, exactement. Dans Yes Day aussi, en effet.
Elle joue la fille, la plus grande fille de la famille.
Oui. Brittany Snow, qu'on connaissait aussi dans Pitch Perfect, ouais. Qui joue aussi dans Airspray puis dans Prom Night, qui fait Bobby Lynn. Mia Gott, qui joue le personnage principal, qui est mis à l'avant dans la bande-annonce, etc. Qui joue entre autres dans Mayday.
Et c'est pas mal tout.
Ouais, c'est
j'ai
ça.
Regardé ça le elle était pas connue. Elle était pas connue.
Et Martin Anderson, qui joue le rôle de Wayne, qui est l'espèce de gars.
Le producteur.
Le producteur du film, qui avait joué dans The Ring et Grey's Anatomy. Veux-tu raconter l'histoire de X, Hugo?
Je peux raconter l'histoire brièvement de X. Ce sont donc des jeunes acteurs pornographiques. Donc,
on des
années 70. On est en 1979, oui. Exactement. Et ils vont tourner un film pornographique dans une ferme que Wayne, justement, le producteur, a trouvé, a loué. Donc, ils vont aller là pour tourner leur scène. On a le jeune réalisateur, caméraman, qui, lui, veut changer le monde avec sa vision de ce genre de film-là.
Avec une histoire.
Ah ouais, avec une histoire, puis le monde va triper, puis les scènes vont être belles, avec un nouveau type de caméra, puis ça va être sublime. Mais la ferme dont il se trouve, les deux vieillards qui y habitent, sont un petit peu fuckés dans la tête, de par la madame, d'une jalousie profonde de la beauté et des jeunes qui sont capables d'avoir du sexe alors qu'elle n'est plus capable, donc vous allez tous mourir.
On ne sait pas ce qu'on voit dans la bande-annonce.
Mais c'est ça le film pareil.
Oui, absolument. Voilà. C'est ça. Dans la bande-annonce, ça explique juste que c'est genre, c'est ça, c'est ma femme est spéciale, faites attention, aidez-moi à la retrouver, à part des bouts. Puis là, tu te rends compte qu'il y a du monde qui meurt, puis c'est un slasher vraiment, là, genre, une pitchfork, là, dans la face. Puis,
c'est un slasher. C'est des morts de slasher.
Ouais, c'est ça. Mais là, comme Yugi a dit, on est là avec. On peut pas avoir de sexe, fait qu'on va tous vous tuer parce que vous pouvez en avoir.
Ouais. Là est la motivation des meurtres.
C'est ça. On va voir.
L'histoire est là.
Oui.
L'histoire est très simpliste, pas plus compliquée que ça.
Non.
À mon avis, la motivation est très innocente. J'accroche pas à ce type de motivation de vouloir tuer tout le monde. Vous êtes beau, vous pouvez baiser, donc vous allez tous mourir. Alors que dans le film, on se rend compte que, hey, woman, t'es capable, toi aussi. Et là, tu viens de perdre toute ta crédibilité pour ta motivation. Ta motivation vient de partir en l'air, là. T'es capable de faire l'amour. Donc, t'as pas besoin de tuer le monde. Fait que là, la motivation marche plus. Puis là, c'est là que moi, j'ai... OK, non, là, ça marche pas, ce film-là. C'est du grand n'importe quoi. C'est un slasher. C'est à la base du grand n'importe quoi, là. Mais ce bout-là a perdu toute crédibilité au film.
Ah, oh, j'avais décroché avant.
Ah, mais tu sais... le décrochage a été fait avant, mais ça a comme été le point culminant de... OK, non, culminant. Je dis culminant, bon.
Culminant, pour les gens qui savent parler français.
Moi, je ne sais pas parler français, d'accord? Donc, moi, ça a été le bouger. Non, c'est beau, celui-là, c'est fini.
Marie.
Écoute, moi, je dirais que j'étais énormément agacée par les changements de plan de vue constants. De la madame, la fille, la madame, la fille, la madame, la fille.
Ouais.
J'ai été énormément agacée par le make-up des vieilles personnes.
Ouais, c'était un des...
Over the top, là.
C'était clair que c'était des jeunes acteurs qui incarnaient les vieux. Ça m'a dérangé, comme si c'était impossible de trouver des vieilles personnes.
On se rend compte que la vieille...
Oui, mais même à ça, tu sais, je veux dire...
C'est la même actrice
principale. Il y a moyen que, tu sais, de faire ça mieux que ça.
Ouais.
Ce qui m'a agacé aussi, c'est que c'est la même actrice qui fait la vieille et la jeune.
Qui est Mia Gott.
Qui n'ont aucun lien ensemble, mais qui portent le même maquillage, qui ont la même obsession pour le même maquillage. La madame a plein d'affaires maquillées de la même façon que la floune. Et clairement, elle avait ça avant. Mais tu sais, la madame, elle, sa jeunesse est dans les années 50. Fait que ça compte pas de lien avec les années 70. Puis, fait que moi, ça me donnait l'impression que chaque bien ça, c'est comme une espèce de saut dans le temps.
On a fait des blagues durant le film.
Genre, la madame qui se voit jeune, et là, c'est son fantôme qui va faire le film de cul avec les autres. Beaucoup beaucoup trop d'utilisation de drogue pour rien aussi, je trouve. Ouais. Là, la floune, je veux dire, elle se prend une ligne de coke à peu près à toutes les 10 minutes dans le film. Là.
Ouais, ça représente la période, là, ça va. Là,
oui, mais on dirait qu'il y a comme juste elle. Fait que, on dirait que ça ne fit pas avec la période. Ouais. J'en étais même venue à l'idée aussi que son chum aussi, c'était comme le vieux plus tard. Tu sais, qui.
Moi, j'avais l'impression qu'on voyait deux, deux timelines en même temps.
Ouais.
Donc, eux autres, ce qui était dans le passé, mettons, et que là, le couple de vieux, c'était eux autres, mais rendu plus tard. Puis là, il s'était passé autre chose. Puis à un moment, tu te rends compte, ça marche pas parce que les personnages se croisent, puis. Là, tu fais « Ah, ok, là, ça marche pas. »
C'est surtout qu'au début, on voit jamais, jamais, jamais le visage du monsieur.
Ouais, pendant longtemps,
il camoufle. Pendant longtemps, là. C'est ça, tu sais.
La vieille aussi est dans l'ombre.
Tout le temps. Fait que tu dis « Ok, fait que finalement, est-ce que le couple principal, si on veut, donc le metteur en scène et l'actrice qui sniffe de la coke à toutes les 10 minutes, ça serait pas eux autres? » Tu sais, puis un espèce de time-lapse là-dedans. Là,
ça aurait quasiment été
meilleur. Ça aurait quasiment été mieux crédible que le
puis,
c'est
ça. Tu sais, c'est... Tout était comme... Oui, un slasher, mais tu sais...
Ben.
C'était comme dérangeant aussi que ça suive pas la suite. Tu sais, habituellement, c'est toujours la première fille qui se déshabille qui meurt.
Ouais, il y a tout le temps des règles au niveau de certains films d'horreur.
Ben,
la première fille qu'on voit nue, c'est elle qui meurt en premier. La personne de couleur va probablement mourir en deuxième, à moins qu'on n'ait pas eu de film de filles nues avant, là, c'est souvent.
La personne qui a des problèmes de consommation.
C'est sûr que là, dans la société, ça marche peut-être plus, cette version-là des règles.
Si la personne, la jeune fille prude, elle mourra pas.
Elle mourra pas.
C'est ça. Les règles du film
d'horreur. On pas mal été jetés, évidemment.
J'ai un peu mon gueule pour respecter des règles. Mais on est de les connaître, surtout. Mais c'est ça.
Fait que c'est ça. On dirait que ça...
Scène de nudité. Je trouve que les scènes de nudité étaient...
Absolument inutiles.
Complètement inutiles. À la limite, la première, pour que c'est beau, l'histoire parle d'une gang qui vont filmer un film porno. Ok, je peux comprendre que tu me montres un peu le tournage d'une des scènes, mais j'ai pas besoin de plus que ça. Là. J'ai pas besoin que tu me ramènes dans ferme avec la fille qui tire le lait de la vache pour faire une autre scène, que tu me la montres. T'as pas besoin de la montrer, je le sais que c'est ça, c'est pas un film porno que je regarde, c'est un film d'horreur.
Moi, je comprends, c'était pas nécessaire.
Non,
puis de rajouter Mercredi aussi, qui fait aussi ce que tu fais.
Non, c'est ça, qui elle, justement, elle est prude, puis qu'elle dit ouais, mais non, moi j'aime pas ça, mais ah, finalement, ça a l'air le fun, je peux-tu en faire une aussi?
Je trouve
que ça n'a absolument rien amené à l'histoire.
Non, mais dans le concept du film d'horreur, je pourrais comprendre vers où tu l'amènes à la faire mourir, mettons.
Oui.
Une raison.
Ouais, ouais. Mais encore là.
Ouais. Deux points. Marie en a parlé. Les maquillages, c'est ridicule. On dirait que c'est fait avec de la pâte à modeler. Là. Ouais. Ça marche pas du tout, le vieillissement des personnes. L'acteur qui joue le vieux monsieur, il est quand même plus vieux. Là. Lui, il aurait pu avoir l'air déjà d'un vieux monsieur.
Ouais.
Mais la femme, ça marche pas. Et que à un moment donné, Yugi demande, il dit, on est rendu où? On est rendu à la moitié du film, pas un mort encore.
Ça faisait 45 minutes.
Qu'est-ce que tu fais?
Et il n'y avait eu aucun décès.
Là. Ouais, là, à un moment donné, il faut que ça commence. Ouais. C'est sûr qu'ils sont pas 27 dans le camp à Crystal Lake. Mais à un moment donné...
Ça aurait pu mettre un petit peu plus de suspense... D'éloigner un peu les morts, d'éloigner les meurtres,
oui.
De mettre un petit peu plus de jus là-dedans plutôt que, ok, merde, il nous reste une demi-heure, let's go, on les tue, tac, tu sais. Les morts sont sympathiques.
C'est bien fait.
Les meurtres sont sympathiques.
C'est la seule bonne affaire.
Oui, tu sais, le crocodile, le cou qui mange toute qu'une volée.
Les effets spéciaux.
Le shotgun, nice. Hein.
Des décès, c'est bien fait.
Ouais.
Ça, là, faut le donner. Effets spéciaux. Vraiment, maquillage, tout ça, c'est bien fait.
Ouais.
Fait que ça m'a donné un petit boom sur le cœur parce que l'idée de base n'était pas mauvaise.
Puis on sait que là, il y a le film Pearl qui est sorti également en 2022 qui raconte l'histoire de la bonne vieille Madame Folle. À l'époque qu'elle était plus jeune, jouée par la même actrice encore une fois, encore là, ça m'énerve un peu, mais bon.
Mais ça, je vais juste regarder le début du film pour voir comment elle est. Est-ce que c'est la même fille? Comment qu'il la présente? On est-tu capable de faire un une différence. En tout cas, je vais jeter un coup d'œil, je pense pas écouter le film au complet, vu la note qu'on va lui attribuer.
Ouais, parce que les notes que nous, on va attribuer, contrairement à la note que les sites ont attribué, m'ont jeté un petit peu sur mon derrière.
Bon. Donc, IMDB, 6.6 sur 10, ce qui est comme assez haut pour eux.
Assez haut pour IMDb. Bon.
Metascore 79, qui avait donné 36 pour
The Outlaw. 36 pour The Outlaw, là.
Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, on est à 93%.
Je comprends
pas. Ouais, mais c'est sur genre 6 critiques, là. Tu sais, c'est... Les gens, les critiques en officiel, ils l'ont pas écouté. Et l'audience, 75%.
On lisait les critiques aujourd'hui, puis il y en a un qui dit que c'est le meilleur film à low budget de tous les temps. J'ai dit, man, t'as pas vu beaucoup de films dans ta vie, là.
Ouais, c'est
ça. Dit pour dire que c'est le meilleur film à petit budget, j'ai dit, oh man.
Mais je suis pas sûr à quel point c'est petit budget. Tu sais, le casting, il y a quand même.
Le casting est quand même assez intense. Jenna Ortega a pas demandé un salaire minimum, là, tu sais.
C'est un peu ça que je me disais, mais je suis pas sûr. En tout cas,
Je comprends pas les notes que ce film-là a eues.
Non.
Ma note à moi, je donne 5 sur 10, hein, simplement parce que les meurtres sont divertissants. Il y a un certain suspense, certain thriller un petit peu, que tu sais que là, lui, sa mort s'en vient, puis tu sais, il y a une petite excitation d'audience de oh, ça s'en vient, ça s'en vient.
Mais la musique est bien faite dans la veine film d'horreur slasher.
C'est ça, exactement. Tu sais,
mais
sinon, la prémisse est poche, la motivation des meurtres est poche, les maquillages sont poche. Je dis, moi, c'est un 5, je peux honnêtement pas aller plus. Je me trouve généreux en donnant 5.
Non, moi, je trouve que je vais donner 5 aussi. La prémisse, moi, je la trouve intéressante. Qu'ils veulent aller
faire... Ben, l'idée était bonne, mais ça a mal été amené.
Oui, mais l'idée de base est bonne. C'est pas mal joué, à part on explique les deux
personnes. Non, en effet.
Les autres acteurs, c'est quand même bien joué. Et les mœurs sont intéressants. On aime l'hémoglobine.
J'ai beaucoup aimé le caméraman qui pleure dans son bain parce que sa blonde a soudainement décidé qu'elle voulait fourrer.
Oui, c'est malade. Donc, 5 sur 10. C'est ça.
Oui.
Oh, je vais rester dans 5 sur 10 malgré que je fais partie des curieux comme mon chum qui veut savoir pourquoi que Pearl a été autant aimé. Est-ce qu'il avait réussi à faire quelque chose de mieux avec ça vu qu'il n'y avait pas de maquillage de vieux à faire? Peut-être.
Peut-être.
Mais autrement...
5 sur 10. 5 sur 10 pour le film X. Disponible sur Prime Video. Si vous êtes curieux puis qu'on vous a donné une piqûre...
Écoutez Pearl, puis faites-nous en part.
Ou à la limite, ouais, écoutez peut-être Pearl avant d'écouter X, peut-être, on sait pas trop.
Ouais.
Si vous aimez les slashers, puis la différence, la variance des meurtres, c'est quand même intéressant.
Il doit y avoir d'autres choses.
Sûrement autre chose à écouter que X, honnêtement. À moins que vous soyez, à mon honnêtement, vraiment très mal pris, puis que vous avez passé votre bibliothèque au grand complet. Qui a écouté X, là, mais sinon, je pense que ça peut être un pause. Là.
Puis ça vous prend absolument un film d'horreur.
Ouais, c'est ça, genre. Là. Fait que, voilà, 5 sur 10 pour X sur Prime. On termine ça avec une série télé dont on a terminé d'écouter durant nos vacances, parce que le 5e épisode est sorti la semaine dernière et le dernier épisode est sorti cette semaine. Hier, d'ailleurs, le mercredi 28 juillet.
26.
Ah, je suis un petit peu en avance dans mon horaire.
Donc, vous savez qu'on enregistre jeudi 27.
Exactement, on enregistre d'avance, on est en vacances quand même. Donc, on parle de la série de Marvel, Secret Invasion, disponible sur Disney+. 6 épisodes d'environ 45 minutes. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'épisodes plus courts ou plus longs. C'est vraiment la moyenne du nombre d'épisodes. Réalisé par Ali Selim, qui a réalisé principalement beaucoup d'épisodes de séries policières, des séries de détectives, des séries d'espionnage. Donc, il est quand même dans son élément. Ça met en vedette Samuel L. Jackson dans son fameux rôle de Nick Fury. Ai-je vraiment besoin de vous dire qui est Samuel L. Jackson?
Non.
Merci. Ça met également en vedette Emilia Clarke. Premier rôle dans le MCU pour Emilia Clarke. Elle joue le rôle de Gaia, qui est la fille de Talos. Donc, si vous suivez le MCU, vous savez qui est Talos. Donc, c'est sa fille. Encore une fois, ce qu'on a besoin de dire, c'est qui est Emilia Clarke.
Peut-être les gens vont la reconnaître, là. Peut-être qu'ils ne savent pas son nom.
Game of Thrones.
Oui, Daenerys Targaryen.
Voilà. Sinon.
C'est pour ça qu'elle me disait quelque chose.
Exactement.
Oui. Ah. Mais dans Brune, puis aussi dans le.
L'excellent Terminator
de Genesis. Elle est jolie en Brune.
Oui, absolument. Dans la vraie vie, elle est
Brune. Vraiment une belle fille. Et également dans Solo, Star Wars Story.
Ah oui, c'est vrai.
Exactement. Donc, Emilia Clarke joue le rôle de Gaia. Don Cheadle reprend son rôle de colonel
James Rhodes.
Donc, si vous suivez le MCU, vous savez qui Don Cheadle est. Sinon, il a joué dans l'excellent film Crash. Si vous n'avez pas vu Crash, ça manque à votre filmographie. Tout comme Hôtel Rwanda, qui est également un chef-d'œuvre. Vous devez écouter Hôtel Rwanda. Sinon, Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. Il a joué dans les trois. Donc, Don Cheadle reprend son rôle de...
Rhodey.
On a également Kingsley Ben-Adir qui joue le méchant Gravik. Pas très connu, mais quand même, il s'en vient pas pire dans son répertoire. Il a joué dans la série The OA qui est pas très connue, mais quand même. Série High Fidelity, il a joué dans Peaky Blinders qui, elle, est vraiment une série beaucoup plus connue. Et sinon, il joue également dans le film Barbie.
J'ai pas écouté Barbie encore.
Non, il vient juste de sortir. Mais il joue quel rôle?
Ken.
Bonne réponse. Il joue un des multiples Ken. Il joue donc le méchant principal de la série. Je vous expliquerai pas en gros ce qu'il fait des 6 épisodes. Je vais vous laisser le découvrir. Et on va vous l'expliquer également quand on va vous parler de la prémisse. On a Ben Mendelsohn qui reprend son rôle de Talos, qui est un Skrull. Et on a également petit rôle de Kobe Smulders dans son rôle de Maria Hill. Et l'apparition de Olivia Colman dans le rôle de la fabuleuse Sonia, qui est extraordinaire
dans c'est la série. Mon personnage préféré.
Dans la série. Je vous parle de la prémisse de Secret Invasion. C'est Nick Fury qui revient de la station spatiale Sabre, qui est une station qui vérifie les allées et venues des possibles méchants de l'espace. Donc, il protège la Terre un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est la mission de Sabre. Il est sur cette station-là. Il revient donc sur Terre pour... Ben, c'est sûr qu'au début de l'épisode, on ne sait pas pourquoi. On voit juste Nick Fury qui revient. Mais de fil en aiguille, et quand même très rapidement au cours de l'épisode 1, on se rend compte que la race des Skrulls qu'on a vu dans Captain Marvel, qui ont été chaudement accueillis sur Terre, mais dont la mission de Nick Fury était de leur trouver une nouvelle planète pour habiter suite à leur invasion des Kree, ça l'a un peu chié. Nick Fury n'a pas été capable de leur trouver une planète, donc on a plein de Skrulls qui habitent sur Terre, qui ont pris la forme d'êtres humains.
C'est ça, parce que les Skrulls, c'est des shapeshifters.
Donc là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui ont pris des très hauts rôles dans la société, sans que personne le sache. Et il y a une cellule un peu rebelle qui se sont dit « Ok, t'as pas voulu nous trouver de planète, fine, on va prendre la tienne. » Et c'est là que le rôle de Gravik vient en considération. C'est le chef de cette cellule-là. Et lui, son but, c'est carrément de détruire l'humanité au grand complet, ou du moins de laisser l'humanité s'auto-détruire par différentes méthodes, afin de simplement prendre possession de la planète pour son peuple.
Oui, exactement.
Donc Nick Fury est revenu, et il doit trouver le moyen d'empêcher ça. On va commencer par les impressions de Maryse. T'as pas écouté grand... T'as-tu écouté les 6 épisodes? Je sais que t'as écouté au moins les 2 derniers.
Oui.
Au moins, tu as avec nous.
Ouais, j'en ai pogné des bouts ici et là. Des fois, je descendais, Hugo l'écoutait. Puis, en reconnaissant Nick Fury, j'écoutais un petit bout. Je dois avouer que la petite madame, c'est elle qui a fait que j'ai resté écouter.
Emilia Clarke?
Oui. Je la trouvais vraiment à son âge. J'ai aucune idée c'est quoi son rôle dans cette histoire-là. Mais de fil en aiguille, j'ai compris qu'elle était du bord à Nick Fury. Mais c'est ça, c'est vraiment... Pour les bouts que j'ai pognés, j'ai trouvé ça très intéressant.
Okay.
Puis coup de cœur à elle, là, la petite Clark. Madame.
Bienvenue.
La petite madame anglaise.
Ben oui, au niveau de l'histoire,
Moi, je ne lis pas de comics, fait que je connaissais pas vraiment l'histoire de derrière Secret Invasions. Je comprends le concept, je connaissais les Skrulls, on l'avait vu, qui étaient sur Terre, etc. Les Skrulls qui étaient ici, qui étaient chez Shapeshifters, je connaissais la race, etc. J'ai aimé de cette série-là le côté espionnage, le côté undercover. Ouais. Le personnage de Gravik est un bon méchant. Un
très bon méchant.
On en parle souvent des méchants. Il est bon, il est crédible, il est...
Il est détestable.
Mais il est... on peut le craindre.
Oui.
Sa motivation, il ne reculera devant rien pour en venir à bout de son plan. Ce qui fait que c'est un méchant qui n'a rien à perdre, ouais, et qui est intelligent, réfléchi, son plan est fait. Il veut vraiment... Et là, plus ça avance, et là, tu rends compte des fois que Nick Fury va se faire un petit peu out-coaché.
Nick Fury a de la misère dans ce série-là. Ce n'est pas le Nick Fury qu'on a vu dans Avengers.
Il explique un peu, sans divulgâcher, ouais, qu'après le blip, il n'a pas été le même. Ouais. Donc, il est revenu, là, lui a changé. Il mentionne à quelques reprises, lui et d'autres personnes. Donc, tu vois que des fois, il est un peu dépassé par tout ça. Je pense pas qu'il voulait revenir sur Terre pour avoir mené ce combat-là. Il a pas eu le choix. Donc ça, c'était très bien.
Performance... Oui, parce qu'il a pas eu le choix, parce que c'est lui qui a dit aux Skrulls,
c'est ça,
je vais vous trouver une nouvelle planète.
Là, les Skrulls, tu n'en as pas trouvé.
C'est ça.
Il revient. Emilia Clarke, belle ajout au MCU.
Oui.
Belle interprétation. J'ai hâte de voir
qu'est-ce qu'ils vont faire avec son personnage maintenant. Personnage.
C'est très bien. C'est ça, donc gros, tu sais, visuellement c'est bien, c'est pas trop d'action.
Photographie, c'est très film d'espionnage.
Oui, c'est ça.
On regarde vraiment la thématique du film d'espionnage, de détective et de...
Donc c'est ça, c'est pas action
avec... Non, c'est ça, tu sais, puis c'est pas super-héros par-dessus super-héros, tu sais, c'est des humains, il y a des extraterrestres, là, mais tu sais, c'est principalement des humains qui essaient de se défendre.
Oui, absolument. Fait que c'est bien, j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire, ouais, et l'ambiance de la série.
Ouais. Ça l'amène beaucoup de paranoïa.
Oui,
parce que... justement, tu sais plus... dès le premier épisode, tu sais plus qui est qui.
Qui est
tu vois un personnage qu'on a déjà vu dans d'autres films.
Oui.
Puis dès le départ, c'est-tu vraiment lui ou c'est un Skrulls qui a pris sa shape? Déjà, en partant, tu pars avec l'idée de paranoïa. Puis tu comprends mieux, justement, déjà en partant à ce que les autres personnages vivent. Tu sais, oui, vraiment plus qui est qui.
Non.
Puis plus la série avance, plus t'en découvres quelques-uns. Mais d'ordre général, je pense que le but principal de la série, c'était d'amener un côté paranoïaque qu'on n'avait pas eu encore dans l'MCU.
Ça ouvre quelque chose à la fin du dernier épisode où j'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller. Comment ils vont intégrer ce facteur-là dans la suite du MCU. Ouais. C'est quand même un gros facteur.
On sait que le prochain film, c'est The Marvels.
Oui.
Et la fin, je pense, nous amène bien vers le film de Marvels.
Oui.
Comment ça va commencer. Donc, je pense qu'il y a un beau lien qui se fait là, contrairement à bien d'autres séries de Marvel qu'on a eues qui nous ont pas amené nulle part.
Ben, on l'a vu. Tu sais, Kevin Feige l'a dit qu'ils ont fait des erreurs dans la dernière phase.
Ils ont beaucoup trop épuré.
Ça ne s'entremêlait pas. À date, ce qui a été présenté, ça semble bien se tenir.
Ouais, on a déjà une bonne ficelle qui relie le tout.
Oui, moi j'ai juste besoin d'un petit lien.
Voilà. Et on l'a depuis...
Un petit fil derrière.
Et on l'a depuis la fin de... Ben, pas nécessairement la fin, mais depuis Ant-Man Quantumania. Avec, on sait que le big bad principal,
c'est
Kang.
Oui.
Là, on nous amène avec Secret Invasion dans... On nous ramène une prémisse d'un ancien film pour la continuer.
Oui.
Déjà là, on garde ce fil-là qui continue et qui nous amène vers le prochain film qui va probablement nous ramener aussi peut-être Kang avec ce film-là pour continuer un petit peu ce timeline-là du nouveau méchant, la nouvelle phase de MCU.
Mm-hmm.
Donc moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chapeau également à Don Cheadle. C'est la première fois qu'on le voit vraiment beaucoup plus tête d'affiche
Pas en tant que War Machine.
Pas en tant que War Machine, vraiment plus en tant que Colonel James Roddy. Et qu'on le voit beaucoup plus souvent que dans les autres films. Dans les autres films, il est très secondaire. Même dans Iron Man 2, où il a fait Don Cheadle, pris le flambeau de ce personnage-là. Il était quand même très secondaire. Là, on le voit déjà beaucoup plus à l'avant-plan. Puis je pense que ça nous amène également à la prochaine série qui sera Armor Wars pour War Machine. Donc là, Don Cheadle va peut-être l'acteur principal, va peut-être le personnage principal. Donc je pense que déjà là, ils le mettent déjà beaucoup plus en avant-plan. Donc si vous êtes un fan du MCU, je pense que c'est une série intéressante à écouter justement pour déjà se mettre en place tout ce qui s'en vient.
Ça ouvre beaucoup de possibilités.
Ça l'ouvre beaucoup de portes.
Oui.
On l'a mentionné, Olivia Colman dans le rôle de Sonya. J'aime beaucoup ce personnage-là. J'ai plus ou moins porté attention à ce que le personnage fait dans la vie en général. On le voit qu'elle travaille peut-être pour certains services secrets, ouais, mais elle avait l'air... C'est ça, MI6, voilà, exactement. Elle semble être la tête d'affiche d'MI6, ou du moins une...
C'est ça, je pense qu'elle n'est pas en haut, mais elle est un atout important, ouais, pour MI6.
Exactement. Ouais. Super bien joué par Olivia Colman. Le personnage est, sans le vouloir,
est drôle
au bout, de par ses expressions, de par ses quirks. Est super drôle à suivre. Elle fait peur.
Mais elle pourrait être une méchante.
Elle pourrait tellement être une méchante. Puis même à la fin, avec sa dernière interaction avec Gaia, tu fais comme... Okay, ils sont de quel bord, là?
Oh, c'est bon.
Sont-tu du bord des bons, du bord des méchants? Ouais. Sont-tu entre les deux? T'es comme, je sais pas, là.
C'est très bon.
Fait que c'est vraiment très, très, très bien joué. C'est très bien écrit, d'ailleurs. Chapeau à la scénarisation. J'ai pas noté c'était qui, malheureusement, mais chapeau à la scénarisation également. C'est très bien écrit. Les textes sont beaux, les textes sont bien faits, sont bien entrelacés les uns des autres. Je trouve que c'est une très bonne série Marvel de Disney+. Tu l'as dit tantôt, il y a eu beaucoup de séries Disney+, hein. Beaucoup de pas très bonnes séries de Marvel de Disney+. Je pense que Secret Invasion vient de pogner, pour moi, dans le top 5 des séries Marvel sur Disney+. T'es en train de chercher le scénariste. Ouais. Tu l'as-tu trouvé?
Oui, Kyle Bradstreet.
Okay.
Ce gars-là a écrit, a travaillé sur la production de Mr. Robot.
Ok, elle est déjà là.
Mr. Robot que... J'ai pas fini par manque de temps, mais qui est vraiment...
C'est vraiment une série.
Vraiment, avec Rami Malek, ouais. Là, c'est vraiment bien écrit. Fait que, tu sais, je comprends le pourquoi, entre autres, là, ouais. qui a travaillé là-dessus, qui sont allés le chercher pour faire Secret Invasion. Ouais.
Ma note à moi pour Secret Invasion, je viens de le dire, il rentre dans mon top 5. Je donne 8 ou 8.5. J'ai donné 8.5. J'ai vraiment beaucoup aimé. À tous les fans du MCU, puis les bons fans, là, pas juste les fans temporaires qui écoutent de temps en temps, là, vraiment les mordus du MCU, je vous recommande vraiment beaucoup d'écouter Secret Invasion.
Absolument. Je suis d'accord avec toi. On va donner les notes.
Les notes, ben oui, on a passé ça.
On va passer après.
Avant mon 8.5, IMDb. Okay. J'avais-tu dit IMDb?
Non.
J'avais pas dit IMDb. IMDb, 6.4 sur 10. Ce qui est bien pour IMDb.
IGN, elle m'a donné
à peu près
6 aussi.
Ouais, c'est ça. Rotten Tomatoes sont un petit peu plus sévères, mais encore là, il faut rappeler le bashing, surtout au niveau des films de Marvel et DC.
C'est vrai.
Les critiques leur donnent 57%, l'audience 61%. N'oubliez pas que la série vient tout juste de terminer également. Il y a beaucoup de monde qui attendent que la série soit terminée pour l'écouter au complet et ensuite donner leur note. Donc c'est pas super haut, mais c'est pas super bas non plus. Moi, comme je disais, c'est un 8.5.
Moi, en tant que non-expert du MCU, en tant que personne, je les ai tous écoutés, sauf Eternals.
Que tu dois continuer de ne pas écouter.
Et j'ai écouté toutes les séries, sauf She-Hulk.
Que tu peux éviter d'écouter également. Voilà.
Mais parce que j'écoute la critique de Yugi et je me fie à notre critique Yugi. Ma note, dis-je, je vais lui donner Ouais, je vais donner un 8.5 sur 10 parce que c'est une bonne série d'espionnage.
Ouais, qui fait vraiment différent des autres, de ce qu'on a vu présentement au MCU.
Ou ce qu'on a vu dernièrement, référence à Citadel que j'ai critiqué sur Prime Video.
En effet.
La série d'espionnage, j'ai peut-être donné 6, je me souviens pas. Ouais, mais c'était vraiment pas bon.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est ça. Donc, 8.5 pour moi aussi pour Secret Invasion. J'ai aimé le respect de pas partir sur plein d'affaires. Ouais. L'ouverture vers le futur, ouais. Qu'est-ce que ça peut donner. C'est bien fait.
Il aurait peut-être pu même... Moi, je pense qu'il aurait été capable de se rendre à 8 épisodes.
Oui.
Puis c'est ce que je disais au niveau des critiques de l'audience. Il y a beaucoup de monde qui trouve que ça a été garoché comme série.
Pas garoché, mais on se concentre sur un point.
C'est ça. Je pense qu'on aurait peut-être pu mettre un petit peu plus de jus.
Oui.
Mais n'empêche, 8.5, je trouve que c'est très très bon comme note pour Secret Invasion. Marie, t'as juste écouté des bouts, mais t'as aimé ça quand même.
Oui. Assez pour donner 8 facile sur 10. Pour le peu que j'ai écouté... Les bouts que j'ai écoutés, j'ai vraiment apprécié.
Alors voilà, série très recommandée sur Disney+. Secret Invasion du MCU, disponible depuis... Le dernier épisode est sorti cette semaine. Donc, 6 épisodes.
6 semaines précédentes.
Exactement!
C'est agréable en plus, c'est que celle-là n'est pas psychédélique.
Oui, en effet.
Parce que là, ils en ont fait une coupe assez psychédélique.
En effet.
Oui.
À un moment donné, lâcher la drogue.
Oui, aussi.
La drogue, c'est mal.
La drogue, c'est très mal. On l'a vu dans le film X. donc voilà, ça fait le tour de notre épisode, dernier épisode mensuel de la saison 2. Comic-Con, X, The Outlaws et Secret Invasion. Si on vous a donné le goût d'écouter quelque chose là-dedans ou d'aller au Comic-Con, tant mieux. Si on vous a donné le goût de ne rien faire de tout ça, ben tant mieux aussi. C'est notre but, c'est juste de vous guider, de vous donner des idées et de vous sauver du temps à essayer de trouver quelque chose à écouter. On aura évidemment 3 capsules express tout le mois d'août. Saison 3 commence le 1er septembre avec notre tournoi meilleur jouet de tous les temps. Très très hâte de pouvoir tourner ça pour vous et de vous présenter cet épisode qui sera peut-être en 2 parties. Je sais pas trop où est-ce qu'on va s'aligner.
On va faire des catégories,
je pense. On a beaucoup de jouets. Je sais pas si on mérite, on devrait faire des catégories, je pense pas.
Non.
On verra, je sais pas, j'ai vraiment une très grosse liste de plein de jouets, donc je vais essayer de mettre un petit peu, de faire du ménage là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais premier épisode de la saison 3, 1er septembre, tournoi meilleur jouet. Programmation un peu changée pour la saison 3, au lieu de vous présenter 3 capsules express par mois, on descend ça à 2, parce que, à un moment donné, on a envie de faire d'autres choses aussi dans notre vie.
On fait ça bénévolement. Si
puis
vous voulez qu'on en fasse plus, là...
Allez nous chercher plus d'audience.
Des commentaires.
Donc, on descend à 2 capsules par mois au lieu de 3. Donc, on aura l'épisode mensuel à tous les premiers du mois. Première capsule le 10, deuxième capsule le 20. Et ensuite, on recommence le mois d'après. Je pense également que ça va aider beaucoup notre histoire à...
Keep up.
À reprendre le fil, ceux qui suivent pas nécessairement toutes les semaines, d'essayer de reprendre un petit peu le dessus sur tous les épisodes qu'ils n'ont pas écoutés. Donc voilà, donc c'est ce qui s'en vient pour la saison 3. Merci beaucoup Marie d'avoir été là.
Et ça me fait vraiment plaisir.
Ce spécial vacances peu dues encore une fois. Et si vous êtes déjà en vacances présentement, ben bonne continuité de vacances. Si vous allez en vacances, ben bonnes vacances. Si vous n'avez pas de vacances, ben bonne journée. Et on se revoit dans une semaine pour une capsule express.
Moi, je dirais, faites-vous un drink, puis mettez-vous devant la TV, puis faites semblant d'être en vacances.
Exactement. Donc, on se revoit pour la prochaine capsule express des critiques de Yugi. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine!
Bye, bye, bye!